Le soleil sans vent commence à brûler. La voiture blanche est garée légèrement en contrebas de la route, à l'entrée d'un chemin creux bordé d'arbustes et de buissons de fougères. À l'intérieur de la voiture, un homme aux cheveux hérissés paraît dormir les yeux ouverts, la tempe appuyée contre la vitre. Il a la peau mate, les yeux sombres avec de longs cils très fins, pareils à des cils d'enfant. L'homme s'appelle Blériot. Il a 41 ans depuis peu et porte ce jour-là, jour de l'Ascension, une petite cravate en cuir noir et des converses rouges aux pieds. Pendant que les rares voitures semblent onduler sur la route à cause de la distorsion de la chaleur, il continue à scruter le paysage. Les pâtures, les troupeaux qui cherchent l'ombre. Aussi immobile sur son siège que s'il comptait mentalement chaque animal. Puis, sans jamais rompre le fil de son attention, il finit par s'extraire de la voiture en esquissant quelques mouvements d'assouplissement et en massant ses reins ankylosés afin de s'installer jambes croisées sur le capot. À un moment donné, son téléphone se met à sonner sur la banquette de la voiture. Mais il ne bouge pas. On dirait qu'il n'est pas là. Blériot a acquis ce pouvoir étrange d'être à la fois présent et absent, sans entraînement ni travail particulier, uniquement en écoutant par hasard un morceau de piano pendant qu'il observait les volets de ses voisins. Il s'est rendu compte plus tard que n'importe quel son pouvait très bien faire l'affaire, à condition de fixer un point à mi-distance et de bloquer ses poumons à la manière d'un plongeur en apnée. C'est exactement ce qu'il fait à cet instant, jusqu'à ce que ses poumons menacent d'éclater et qu'il soit obligé de relâcher sa respiration. Il se sent d'un seul coup devenir léger, impondérable, tandis que le sang reflue progressivement vers ses extrémités. Il allume alors une cigarette et réalise à cet instant qu'il n'a rien avalé depuis 2 jours. Il roule pendant une trentaine de kilomètres à la recherche d'un restaurant un peu engageant et de guerre lasse, finit par se garer devant un bâtiment sans étage, entouré d'une terrasse en bois et de 5 ou 6 palmiers poussiéreux. À l'intérieur, l'air est moite, presque statique, malgré les fenêtres ouvertes et le gros ventilateur bleu posé sur le comptoir. Il n'y a plus grand monde dans la salle à cette heure, hormis un trio de routiers espagnols et un couple exténué qui semble avoir perdu l'envie de se parler. L'air que brasse le ventilateur balaie de bas en haut le visage d'une serveuse affairée derrière le bar, rebroussant ses cheveux blonds. C'est un jour de début d'été ordinaire, un jour où Blériot, qui n'attend rien ni personne, est en train de calculer en mangeant ses crudités l'heure à laquelle il arrivera en vue des contreforts de Cévennes, quand l'indicatif musical de son portable, ça ressemble aux trompettes de la destinée, retentit à nouveau dans le vide de l'après-midi. « Louis, c'est moi !» dit aussitôt Nora de sa voix fluette, toute voilée, qu'il reconnaît entre 1000. « Je suis en ce moment à Amiens, chez des amis anglais. En principe, j'arrive dans quelques jours à Paris. »« À Paris ?» fait-il en se levant précipitamment pour aller vers les toilettes, à l'abri des oreilles indiscrètes. Elle l'appelle d'un café en face de la gare. « Et toi ? » demanda-t-elle. « Où tu es ?»« Où je suis ?» répète-t-il parce qu'il a l'habitude de penser lentement, si lentement qu'il est en général le dernier à comprendre ce qui se passe dans sa propre vie. « Je vais voir mes parents et je suis en train de déjeuner quelque part du côté de Rodez. » Commence-t-il avant de se rendre compte, ses lèvres continuent à bouger dans le vide, qu'ils ont été coupés.